ne jouer, une première en 12 ans. 7 pays, Ukraine en tête, avaient refusé de participer à la cérémonie d'ouverture pour protester contre cette perspective. Tout de suite, c'est Action d'Europe.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bonsoir, vous êtes bien sur Topette, sur Radio G au 101.5 FM, l'émission qui secoue votre fin de journée avec de l'énergie et des rencontres. Installez-vous confortablement, montez un peu le son, on est ensemble pendant une heure. Ce soir, on reçoit Les Imposteurs, une compagnie de théâtre qui viendra nous présenter dans quelques minutes leur spectacle Raymond, une pièce qui s'annonce à la fois drôle, touchante et porteuse de messages forts. Ils ne seront pas seuls, puisqu'ils sont accompagnés d'une association que vous connaissez forcément, les Restos du Cœur. Mais je ne vous en dis pas plus, on les retrouve dans quelques instants pour les découvrir ensemble. Et puis, comme toujours dans Topette, la soirée sera bien remplie. Au programme, également les fameux charabia d'Aurélia. La dernière fois, elle nous parlait de croquettes pour chiens. Alors Aurélia, dis-nous, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ?
Aujourd'hui, on parle justement des droits des femmes.
Très bien, et puis tout à l'heure, du coup, on écoutera aussi Café Chololo, qui nous racontera la légende de la découverte du café.
18h10, 19h, c'est Topette, sur Radio G.
Mais avant de plonger dans l'univers du théâtre, on va peut-être parler basket, foot ou encore tennis. Bref, de sport avec Gabin. C'est la Minute Sport.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir tout le monde, ce vendredi s'est clôturée la saison régulière de la Ligue Magnus. Les Ducs d'Angers disputaient leur 44e match de la saison contre Briançon, alors qu'ils ont été dominés sur le score de 2-0 pendant plus de 40 minutes. Les Angevins reviennent au score en 3e période, puis marquent 2 buts supplémentaires pour remporter le match 4-2 grâce à la crosse des scoreurs Gutiérrez, Gabory et le doublé de Charbonneau. Les Ducs se sont hissés à la 3e place du championnat, derrière Grenoble et Rouen, cela leur permet de se qualifier pour les play-offs qu'ils disputent face à Nice, classé 6e. Les deux équipes s'affrontent pour 5 matchs qui définissent qui sera présent pour affronter les qualifiés parmi les 6 autres équipes de ces quarts de finale. Le basketball féminin angevin est en alerte rouge depuis ce samedi. Les joueuses de l'UFAB ont concédé leur 15e défaite de la saison 76-65 face à Charnay. Cette saison semble être plus que compliquée, l'équipe se retrouve sans meneuse avec la blessure de Laura Mendez. Aurélie Bonan explique qu'elle a des joueuses qui jouent trop, qui sont cramées et qui, du coup, font trop d'erreurs. Statistique terrible de la semaine, l'équipe a perdu 22 ballons dans ce match et a gagné une seule de ses 13 dernières rencontres. L'UFAB est donc bonne dernière du classement à 2 matchs de la fin de la saison régulière. Les joueuses peuvent encore éviter les play-outs en cas de double victoire face à Bourges et Montpellier. Alors je vous ai peut-être parlé, j'ai peut-être été un peu loin en parlant d'Europe pour le football angevin, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont presque validé le maintien de Ligue 1 cette saison. Angesco se relance après 3 défaites d'affilée et battent le voisin nantais 1-0 à la Beaujoire. Malgré la sortie de Yacine Belkedim sur blessure, Amin Sbaï inscrit le but de la rencontre. Sur un enchaînement de temps, l'ailier marocain a manqué de doubler la mise. Les Canaries ont tenté de revenir au score, mais ont échoué face au retour du gardien numéro 16, Hervé Kofi, et d'une défense qui est restée solide devant les cages. Le SCO fait couler le navire nantais dans le bas du tableau. Angers, de son côté, arrive à 32 points après 25 journées. C'est presque les 36 de l'année précédente. Il reste 9 matchs pour que les joueurs d'Alexandre Dujeu confirment le maintien. Et ils peuvent même rêver du top 10, comme il y a 10 ans, en 2016. Pour conclure, on va monter sur nos grands chevaux, car le Grand National de Saumur se déroulait du jeudi au dimanche. Pour vous expliquer le principe, c'est un concours en 3 épreuves entre harmonie et performance où 15 cavaliers accompagnés de leur duo de chevaux se sont affrontés dans les compétitions de pro-élite. Les jeunes et amateurs ont aussi été mis à l'honneur à la compétition, avec la compétition de l'AS Jeune. La pro-élite compétition professionnelle d'équitation a été pleine de suspense, car Alexis Goury et son duo de chevaux ont pris l'avantage lors des 2 premiers jours. Sur un échec de saut d'obstacle, Benjamin Massier a chippé la victoire sur la dernière épreuve et s'est imposé en plaçant ses 2 chevaux dans le top 5. Ce dénouement vient clôturer le Grand National de Saumur, un rendez-vous qui a rassemblé plus de 8000 curieux sur les 4 jours de la compétition.
Merci beaucoup Gabin pour toutes ces actus sportives. Et l'équitation, je crois que ça a plu autour de la table. Mais on en reparlera tout à l'heure. Tout de suite, on accueille les invités de notre soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de monde autour de la table. On a dont Jean-Marc et Alain, représentants des Restos du Cœur ici ce soir. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Et bonsoir Alain.
Bonsoir.
On reviendra vers vous tout à l'heure pour parler spécifiquement des Restos du Cœur et du lien avec le spectacle. Mais avant tout, on va voir Johan. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Co-président et comédien des Imposteurs. Et Céline, secrétaire et comédienne. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Eh ben on va pouvoir parler des Imposteurs et de votre fameux spectacle Raymond. Pour commencer, présentez-nous la troupe des Imposteurs. Comment cette aventure a-t-elle commencé ?
Eh bien, l'aventure a commencé en 2013 avec une troupe adulte et des troupes enfants. Et aujourd'hui, on est composé de deux troupes adultes et quatre troupes enfants et adolescents, dont les cours sont donnés par Isabelle Asensio-Becker, qui est auteure et metteur en scène.
Mmh. Donc on a des cours le lundi et le mardi. Ça fait à peu près, on va dire, 70 comédiens,
oui,
allant de 7 à 77, on va dire. Je prends large, même si ils sont plus jeunes. Mais bon, c'est toujours intéressant. Donc, comme l'a dit Céline, c'est essentiellement des créations. Donc on a cette chance que nous sommes quand même 12 comédiens sur scène. Donc à la base, on est une troupe d'improvisation. Et en fait, on commence l'année avec des exercices d'impro, sachant qu'elle a déjà l'idée, on va dire, et voir la trame en fait de la pièce qu'elle souhaite nous faire jouer. Et suivant ce qu'on lui propose lors des exercices, elle va tisser nos personnages, nous en faire part. Donc il y a beaucoup d'échanges justement avec Isabelle, ça qui est très chouette. Mmh. On participe un peu, on va dire, à l'élaboration de la pièce. Et on a une grande confiance en elle, elle a une grande confiance en nous. Donc ça donne des sujets assez sympathiques et assez drôles, tout en dénonçant justement, comme on a dit tout à l'heure, on va dire, des sujets qui nous tiennent à cœur et d'actualité.
Et du coup, vous parlez beaucoup de Isabelle Asensio-Becker. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est-ce ? Qu'est-ce qu'elle fait vraiment dans la troupe ?
Alors Isabelle, c'est la metteuse en scène. Elle écrit, donc elle nous dirige évidemment. Elle fait aussi partie du bureau en tant que membre active. C'est un petit bout de femme très énergique que tout le monde adore. Elle est géniale, tout simplement. Elle a beaucoup d'humour. Elle a des idées géniales.
Toutes extraordinaires, les unes comme les autres.
Ouais. Et comme on l'a dit précédemment, elle adore aborder des sujets d'actualité qui méritent justement d'être mis en avant sur plein de choses, en fait. Vas-y, je te laisse.
Oui, elle écrit principalement des comédies. Elle aime les portes qui claquent, des entrées et des sorties sur scène.
Du vaudeville.
Voilà, elle écrit principalement du vaudeville. Elle peut s'inspirer effectivement d'événements de la vie quotidienne. Et l'idée, c'est toujours de pouvoir apporter du rire, mais et beaucoup de respect, et beaucoup de, même si les sujets parfois sont un peu, peuvent être un petit peu, enfin, ressentis comme délicats, c'est toujours abordé avec beaucoup de chaleur, beaucoup de
bienveillance.
Beaucoup de bienveillance, ça c'est important, ouais.
Et ça c'est génial.
Et elle écrit, depuis 2013, on se connaît bien, donc c'est vrai qu'elle peut écrire des textes aussi en fonction de qui on est, enfin, d'interpréter les rôles tels qu'on est. Et elle sait effectivement qu'on peut les adapter tout en respectant aussi la qualité de son écriture.
Du coup, elle a vraiment un rôle fédérateur et
oui,
elle est là aussi pour mettre le lien entre adultes, ados et enfants.
Exactement.
Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un projet théâtral aussi intergénérationnel ?
Une grande cohésion, en tout cas, dans l'ensemble des ateliers et puis des personnes. En tout cas, ce qui peut servir, les impros qui peuvent jaillir, en tout cas, des activités avec les enfants, ça peut effectivement se transposer chez les adultes. Enfin, elle se sert, en tout cas, de ce qui se passe dans les différents ateliers pour nourrir son écriture et les rôles qu'elle nous dédie ensuite.
Ouais, je pense que mutuellement, on s'apporte beaucoup aussi bien chez les jeunes que chez les adultes.
Et,
et ça se voit, et effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, elle est très fédératrice, en fait. On est tous unis autour d'elle. Je pense que si les jeunes étaient là pour en parler et dire la même chose, on la suit aveuglément.
On peut dire qu'il y a, ouais, il y a un plaisir de jouer assez général, en tout cas dans les différents ateliers, de pouvoir rire ensemble et aussi faire rire le public aussi. Et si on rit déjà entre nous pendant les répétitions, ça permet effectivement de se dire « Ah ben alors, ça va sans doute bien fonctionner le jour du spectacle, quoi. »
Donc Isabelle est vraiment la maman d'une grande famille au final.
Ah oui, c'est bien ça.
C'est tout à fait ça, c'est bien résumé. On n'aurait pas dit mieux.
Ah oui, c'est bien.
Et du coup, elle a écrit la pièce de théâtre Raymond. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça.
C'est ça.
Et du coup, est-ce que vous savez comment est née l'idée? Quand a-t-elle été créée aussi?
Alors, elle donne des cours aussi dans différentes structures, notamment dans un ESAT et en IME peut-être aussi. Mm-hmm. Et effectivement, elle s'est peut-être posé la question aussi de comment effectivement des sujets de la vie quotidienne peuvent se gérer dans des situations où le champ du handicap a aussi sa place, et elle s'est, voilà, donc elle s'est interrogée et de là est née effectivement cette pièce, en tout cas la thématique, et avec beaucoup de bienveillance, même si le sujet peut être délicat, en tout cas il est vraiment traité avec beaucoup d'humour et de respect.
Ouais, c'est ça le plus important. Puis je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, on va dire, ces dernières années, que ce soit au cinéma, au théâtre, le sujet du handicap est enfin mis en avant. Donc sans manquer de respect, Isabelle, je ne veux pas dire qu'on sort sur la vague, par exemple, d'un petit truc en plus, parce que c'est quand même des sujets qu'on avait déjà nous aussi abordés auparavant dans différentes pièces.
Oui.
Mais c'est, on va dire que c'est une locomotive, ce film, et ça permet justement... que les gens voient justement le handicap d'une autre manière, qu'ils le réalisent vraiment, qu'ils le comprennent. Et nous, sur certaines représentations, on a eu l'occasion de jouer Raymond, notamment à Château-Gontier au mois de février. Et on a eu un retour de certains parents, mais ça nous a vraiment touchés, ça nous a émus, parce qu'ils nous ont dit qu'en fait, qu'on a abordé en fait leur quotidien, et comme tu disais tout à l'heure, avec beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, et ça leur a fait du bien. Ils se sont sentis en fait compris, entendu, en toute humilité, hein, je dis ça évidemment, mais c'était génial, quoi. Donc ça nous encourage encore plus à aller dans ce sens-là.
Mais ça donne vraiment envie d'aller voir cette pièce, mais est-ce que vous pouvez très légèrement la résumer un peu pour savoir vraiment de quoi on parle, même si j'ai cru comprendre que le sujet principal était l'handicap.
Alors la trame, en fait, c'est... Alors c'est un couple, en fait, qui habite en bord de mer, qui ont une situation un peu aisée, en fait, et donc le Astrid, on peut dire le prénom, Marc.
Oui, on peut dire.
Astrid donc prépare le départ en retraite de son mari Jean Bat, avec l'aide de ses enfants, hein, donc elle a
des jumelles,
et elle a une fille justement qui est atteinte d'autisme, et un garçon qui était adopté, qui a, si vous me permettez l'expression aussi, un petit truc en plus, lui aussi. Et donc, elle va profiter en fait de cet événement pour dévoiler
un secret
à sa famille, à ses enfants, qui concerne sa relation avec son mari. Et donc, ça va donner lieu à des situations un peu...
Cocasses,
un peu...
Inattendues.
Et explosives, mais dans le bon sens du terme.
Ouais.
Du coup, c'est une pièce qui aborde des sujets très forts, comme on a pu voir, et aussi de l'humour. Comment vous trouvez un équilibre sur cette scène pour pas non plus partir dans quelque chose un peu burlesque, un peu trop surjoué?
Eh ben, en fait, on a justement les cours d'impro et les répétitions auparavant pour travailler là-dessus. Là, on se permet de voir si justement il y a un peu trop de... Si on joue un peu trop, on surjoue un peu trop, donc on en discute entre nous, on échange avec Isabelle. Là où il faut mettre, par exemple, un peu plus d'émotion, un peu plus de sérieux sur une partie du sujet, et d'autres parties où on peut se lâcher justement totalement, quoi. Parce que le but aussi, c'est de... Enfin, moi, je trouve que, depuis qu'on fait du théâtre, c'est la manière, en fait, la dérision autour de sujets sérieux, tout en étant abordé avec du respect... C'est ce qui amène les gens justement à avoir un œil différent sur le sujet tel que le handicap ou sur plein d'autres sujets. Et justement, le fait de le traiter avec une grande forme de respect, en fait, ça apaise les personnes. Alors, on peut pas toujours plaire à tout le monde, forcément. Il y a toujours des gens qui ont des visions différentes, mais nous, ce qui nous encourage, c'est que les personnes concernées par ce sujet-là sont toujours ravies en fait de la manière dont on l'aborde, et c'est ça qui nous porte en fait. C'est ça qui nous aide, et pour nous, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Si eux, ils comprennent justement le message qu'on veut passer, bah on va dire que c'est pratiquement gagné, quoi.
Oui, vous l'avez du coup déjà joué et vous allez la rejouer au Théâtre Chanzy le 11 avril.
Oui.
Et quel public est vraiment visé, et souvent avec votre vécu, tout ça, qu'est-ce que le public en retire vraiment ?
Alors, c'est une pièce qui est tout public, en fait. Alors, on l'a déjà joué effectivement deux fois à Saint-Jean-d'Ignières. On l'a joué à Bécon-les-Granites pour l'association Bécon Solidarité. Et du coup, comme disait Johan, à Château-Gontier pour l'ADAPI 53.
Il n'y a pas de, comme tu l'as dit, il n'y a pas de public vraiment concerné. C'est vraiment tout public. Donc, nous, ce qu'on vise, en fait, c'est des gens qui veulent prendre du plaisir, qui veulent rigoler, qui veulent se détendre. Parce qu'au vu de l'actualité en ce moment, je pense qu'on a quand même relativement besoin. Et le but, c'est justement, c'est qu'on amène aussi des personnes qui, peut-être de près ou de loin, contribuent à l'action des Restos du Cœur. Et ce qu'on souhaite, justement, c'est joindre l'utile et l'agréable. Nous, c'est le top pour nous d'être dans une aussi belle salle, avec du public, et on l'espère faire complet, justement, de rigoler sur scène avec les gens. Et en même temps, on fait cette action-là, parce que les Restos du Cœur, c'est une association qui est connue dans la France entière, qui est fortement appréciée par ses actions, par tout ce qui se passe autour. Et le fait de pouvoir jouer pour cette association, c'est vraiment génial. Donc on arrive à faire une bonne action pour la Resto, à aborder des sujets sensibles, justement pour les décomplexer, j'ai envie de dire. Et puis nous, à prendre du plaisir, et puis à créer un lien aussi avec le public. Et voilà, passer du bon temps, tout simplement.
Et on vous retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de Raymond, mais surtout du projet solidaire qui l'accompagne. Mais d'abord, une petite pause musicale.
When I first saw you, girl,
On vient d'écouter To Build Some Things de Malted Milk, qui sera d'ailleurs en concert au Shabada le 11 mars, si jamais vous avez aimé. Vous êtes toujours sur Topette, sur Radio G, au 101.5 FM, et on retrouve nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Du coup, on a pu entendre Johan et Céline qui font partie des Imposteurs. On est toujours avec eux et on est aussi avec Alain et Jean-Marc qui font partie des Restos du Cœur. Alain, est-ce que tu peux nous dire déjà quel rôle as-tu au Restos du Cœur ?
Ben, je suis secrétaire départemental depuis 23 ans et depuis 4 ans, j'ai en plus la fonction de responsable départemental adjoint pour toutes les personnes accueillies, que ça soit dans les 27 centres fixes du département. Le centre itinérant qu'on a lancé il y a 3 ans, c'est un camion qui va desservir des zones blanches du département. Et on a une grosse activité dans les gens de la rue, puisqu'on a un resto-bus qui sert 3 fois par semaine des repas chauds depuis 14 ans. On a créé un accueil de jour pour les femmes qui vivent dans la rue avec des enfants en bas âge il y a 4 ans, à l'arrière de notre centre du Doyenné. C'est le seul accueil de jour que les restos possèdent en France. On a 2 autres accueils de jour, mais où les gens viennent juste se laver, se doucher, se laver leur linge à Saumur et à Cholet. Et pour terminer, des gens de la rue, on s'occupe des Toits du Cœur où on sous-loue 30 d'appartements. C'est une mission qu'on appelle de la rue au logement. Donc je m'occupe de tout ça, mais je m'occupe pas du tout des 3 chantiers d'insertion qu'on a depuis des années où on emploie quand même 60 personnes en insertion sur le département.
Mais ça fait déjà énormément de travail.
Oui, oui.
Et Jean-Marc, du coup ?
Alors moi, je suis bénévole au resto et j'ai 2 missions principales. La première, c'est de m'occuper des manifestations. Alors je ne parle pas forcément ici en temps passé parce que l'autre me prend plus de temps. Et la seconde, c'est de dépenser l'argent que nous collectons dans différentes collectes dans les magasins du département. Et là, j'ai été contacté par la compagnie Imposteur en septembre 2024 pour monter ce projet de la pièce de théâtre Raymond à Chanzy.
Et juste avant de justement parler de ce partenariat que vous avez avec les Restos du Cœur, et est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas, même si là on a beaucoup appris de choses, qu'est-ce que les Restos du Cœur, quelles sont les actions qu'elles font ?
Traditionnellement, je vous rappelle que les Restos du Cœur ont été créés par le 26 septembre 85 sur Europe 1. Un appel lancé par Coluche qui, dès le mois suivant, a structuré avec l'appui d'un ministre qui s'appelait Monsieur Nallet, puis d'étudiants et de syndicalistes, ont structuré l'association qui a toujours les mêmes statuts, qui, dès la création au mois d'octobre, disait qu'on apportait une aide alimentaire gratuite, et on s'y tient depuis 41 ans maintenant, et tous les moyens de leur insertion. C'est-à-dire que dès la création des restos, on pensait à l'aide alimentaire et à l'insertion des gens. Et le premier chantier d'insertion a été créé à Saint-Lambert-d'Élevé en 1998. Et maintenant, on en a 3 dans la région. Alors juste un chiffre, on vient de terminer ce qu'on appelle la campagne 25-26 qui regroupe la séquence d'été, 36 semaines, plus la séquence d'hiver qui s'est terminée la semaine dernière, et on aura fait 2 425 000 repas en augmentation de 24% par rapport à la dernière. Et ça, c'est uniquement dans les centres, les 27 centres et le centre itinérant. À côté de ça, on a distribué à peu près 15 500 repas chauds au resto bus. Ce que j'ai oublié tout à l'heure dans les gens de la rue, on sert des repas chauds tous les soirs à la halte de nuit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la halle de nuit.
Oui.
C'est un hébergement d'urgence où il y a des bungalows, où il y a 59 places. Et quand la pandémie est arrivée en mars 2020, on a commencé à livrer des repas. Et puis on les a sacralisés à partir de juillet 2020. Et là, on sert à peu près 15 000 à 16 000 repas chauds tous les soirs. Et on apporte un sac de petit déjeuner pour les enfants, parce qu'à cette halle de nuit, il y a en moyenne 15 à 20 enfants.
Du coup, après avoir appris ou même rappelé ce que c'était les Restos du Cœur et ce qu'ils font, Johan ou Céline, pourquoi ça vous tient vraiment à cœur de les avoir contactés et d'être du coup avec eux ?
Eh bien, je pense que j'ai été bercée dans ma jeunesse, en tout cas par les Restos du Cœur, et dans ma vie professionnelle aussi, d'ailleurs. Et effectivement, c'est le fruit de rencontres professionnelles qui ont fait que effectivement on s'est rencontré avec Jean-Marc du coup. Et donc oui, ça, il y a quelque chose de très épidermique, enfin de une envie profonde. Enfin, je pense que ça fait partie de mes valeurs personnelles, professionnelles, de pouvoir apporter un soutien par la culture, parce que effectivement l'accès à la culture, c'est aussi important de pouvoir transmettre du rire, transmettre, voilà, sous toutes ses formes, voilà.
Et à l'inverse, Jean-Marc, pourquoi as-tu accepté de collaborer avec justement ce spectacle-là, Raymond? Pourquoi ce message est-il important?
Alors nous, au resto, on n'est absolument pas exclusif, c'est-à-dire que dès lors qu'on nous propose des choses, on étudie évidemment l'affaire, mais a priori, nous, on est ouvert à tout ce qui peut se faire au bénéfice des restos. On a un processus interne qui peut paraître un peu rigide. Par exemple, il faut savoir que là, l'association va reverser l'intégralité des bénéfices au resto. C'est-à-dire que c'est une démarche que les associations qui nous sollicitent n'ont pas forcément en tête dès le départ. Là, nous, ça s'est très bien passé avec les imposteurs. Mais à travers ça, je loue l'engagement des associations ou de différents organismes qui travaillent avec nous, parce qu'effectivement, ils travaillent quasiment à blanc, pour eux, si je puis dire. Enfin, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là, eux vont prendre les risques financiers de louer Chanzy, etc., et l'intégralité des bénéfices va nous être versée. Alors après, pour la petite histoire, il se trouve que quand on s'est contacté, on habite quasiment dans les mêmes communes, donc... On s'est rencontrés, oui, en septembre 2024 au forum des associations de notre commune pour la première fois. Mmh. Puis après, ben, on a eu quelques rencontres pour caler tout ça avec l'avancement du dossier, nous, au niveau national, puisqu'on réfère de tout ce que l'on fait, nous, à l'Association nationale des restos.
Comment on peut réserver les places, du coup, pour justement pouvoir aider les Restos du Cœur et voir ce spectacle en même temps?
Alors on a des affiches et puis des flyers en fait qui sont les flyers sont mis à disposition, sont on va faire une campagne de distribution ce week-end
sur les marchés.
Moi, par le biais de ma profession, j'ai commencé déjà aussi sur certains marchés. On a des affichages. Alors on va trouver sur les flyers en fait l'adresse internet de l'association. On a un flash code qui permet d'aller directement sur le site pour réserver. Et pour les personnes qui sont moins à l'aise avec Internet, il y a le numéro de téléphone pour pouvoir réserver justement les places par téléphone. Et donc on peut soit régler en ligne ou régler sur place, suivant notre désir. Puis après, il y a nos contacts perso. Alors c'est vrai qu'on a un fichier en fait avec les spectateurs qui viennent nous voir. Donc dès qu'on fait une manifestation de ce type, on leur envoie donc le mail de l'affiche, l'explication, le lieu de la représentation. Et donc, ça nous permet justement d'attirer aussi du monde. Et on a la chance aussi de jouer donc à Chanzy. Et aux alentours de Chanzy, il y a des gens qui sont des habitués en fait des représentations de Chanzy, que ce soit du théâtre, du stand-up ou voire même des concerts. Et donc, ces gens-là viennent nous voir, viennent vers nous en fait, ils réservent aussi. Donc voilà.
Aussi, oui, sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux.
Notre collègue secrétaire, effectivement, qui est plus à l'aise avec la gestion d'Instagram, etc.
Et puis nous, au resto, l'affiche va être, si elle n'y est pas déjà, elle va être mise sur le site des restos du Maine-et-Loire, où les gens retrouveront donc le flash code dont a parlé Johan.
Ouais.
Qui est sur l'affiche. Et moi, j'ai réservé ma place par ce biais-là. C'est extrêmement facile de réserver ses places.
C'est vrai.
On a vu.
Et je crois qu'on a aussi en fait des parutions dans les journaux.
Oui.
On a eu un article aujourd'hui qui a été mis dans le Ouest France, si je ne me trompe pas.
C'est ça, Ouest France. Il y a un info local.
Ouais.
Il y a les écrans dans certaines grandes surfaces aussi.
Oui.
Et puis
nous, on a laissé, ce week-end avait lieu la collecte nationale dans les magasins. Et dans les magasins de l'agglomération angevine, normalement, les clients retrouveront l'affiche qui sera normalement affichée jusqu'au spectacle.
Ah, super.
Et justement, cette affiche, elle est assez visuelle. Je veux dire, on voit vraiment déjà le titre, Raymond, trois personnages avec un qui porte le badge des Restos du Cœur. Ces trois personnages, est-ce que vous pouvez citer c'est qui?
Bon, ben, je pense que il n'y a pas trop de doute sur un des personnages. Hein. Bon. Hein, alors, le personnage du centre, c'est Raymond. Celui de gauche, donc la jeune fille, c'est une des sœurs de Raymond, qui s'appelle Clotilde. Et en fait, le personnage de droite, c'est Jérémy, c'est un ami de Raymond. Je ne vais pas trop en dire plus, parce qu'il ne faut pas trop spoiler. Et puis derrière, il y a, dans cette espèce de petit cafouillage, il y a des membres de la famille. Donc d'ailleurs, tiens, je tiens à dire un petit mot sur l'affiche qui a été faite par Tom Pinault, qui nous fait les affiches, qui a un talent fou. Donc voilà, la petite dédicace pour lui, parce qu'elle est vraiment sympa. Elle a un petit côté bande dessinée et en même temps...
Bord de mer.
C'est, je pense qu'on voit tout, en fait, ouais. Le bord de mer avec le sable. Et puis, elle est très expressive, je trouve.
Très visuelle, avec des bandes... bleu et blanche, ouais, qui rappelle le bord de mer. Donc
une affiche à aller voir pour un peu avoir le goût du spectacle.
Exactement.
Et pour terminer, si vous devez donner une bonne raison de venir voir Raymond le 11 avril, ça serait laquelle?
Bah, c'est une belle action.
On compte sur vous.
Voilà. C'est au profit des restos.
C'était quelqu'un.
Et puis voilà quoi. C'est comme j'ai dit en début d'émission, on va passer un bon petit moment, on va se détendre et puis en faisant de belles actions. Et puis la salle de Chanzy est sympa aussi. Quoi.
Ouais. Et il y a des acteurs qui sont dans les starting blocks, là.
Voilà.
Prêts à tout donner.
Bah, merci à tous pour ce moment. On revient vers vous dans quelques instants pour les infos pratiques. Mais avant ça, on retrouve Aurélia pour ses charabia.
Les charabia d'Aurélia.
Charabia d'Aurélia.
Hier, dimanche 8 mars, avait lieu la journée des droits des femmes. Et pour marquer cet événement, l'UNESCO organisait ce matin même une session d'échange de haut niveau, réunissant les États membres afin de promouvoir des actions concrètes en faveur de l'égalité des genres. Et je ne vous cache pas que j'ai été fort surprise de constater que cet échange de haut niveau se résumait en fait à deux petites minutes. Deux discours par délégué, pour évoquer ses actions prioritaires. Et deux minutes, c'est à peine la moitié du temps qu'il me faut pour vous parler justement de ces êtres tellement mystérieux que leur double chromosome X les empêche encore aujourd'hui de toucher le même salaire que leurs homologues masculins. J'ai nommé les meufs, les donzelles, les petites pépées, les gonzesses et les greluches en tout genre. Sans grande surprise, la langue française ne brille pas par sa subtilité en matière de stéréotypes féminins, puisque la moitié de la population continue de se voir cantonnée à trois grandes catégories. D'abord, les jeunes filles bonnes à marier, à qui l'on donne souvent de petits surnoms animaliers. Ma minette, ma gazelle, ma biquette, ma poulette, ma souris ou ma sauterelle, etc. Les femmes séduisantes sont d'ailleurs souvent comparées à des prix ou à des objets valorisés par les hommes. On parle par exemple de beaux petits lots, de canons, de poupées bien roulées ou bien carrossées, et même de prix de Diane, qui est une course hippique. Mais on reste malheureusement encore au ras des pâquerettes quand il s'agit de décrire une femme dont le physique ou le caractère déplaire à ces messieurs. C'est alors un boudin, une morue, un cajou, un remède contre l'amour, une grognasse, une rombière, un frigidaire ou une vieille taupe. Ensuite, il y a celles qui ont déjà connu le loup, que certains qualifient de femme de petite vertu, de fille de joie, de gourgandine ou de Marie couche-toi là. Car à l'époque, pas si lointaine où les femmes dépendaient entièrement de leur mari, il valait mieux être une bonne mère de famille, ranger des voitures, ou bien vouer sa vie à Dieu en rentrant dans les ordres. Sans ça, on risquait d'être relégué au statut pas très enviable de vieille fille, que l'on appelait autrefois des Catherinettes, en hommage à Sainte Catherine. Mais saviez-vous que cette appellation remontait à une légende du IVe siècle ? À l'époque, Catherine d'Alexandrie est une jeune égyptienne belle et intelligente qui a décidé de se convertir au christianisme. L'empereur romain Maxence la menace, mais elle refuse de trahir sa foi. Ce dernier organise alors des débats publics avec des philosophes païens chargés de la convaincre de se renier. Mais Catherine triomphe face à eux, et pour se venger de son obstination, l'empereur ordonne qu'on lui fasse subir le supplice de la roue crantée. Miraculeusement, la roue se brise, mais cela n'empêche pas Maxence de faire quand même décapiter la pauvre Catherine. Méfiez-vous donc des hommes de pouvoir qui ne craignent pas de voir se réaliser l'expression « ce que femme veut, Dieu le veut ». Mais comme le disait le célèbre poète Louis Aragon, l'avenir de l'homme est la femme. Et pour les plus terre-à-terre, on retiendra ce petit dicton rimé de l'Anjou. Maison sans femme et sans flamme, maison sans âme.
Merci beaucoup Aurélia et merci à tous d'être venus ce soir. Avant de se quitter, bien sûr, on a une petite dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur Instagram, sur Facebook, Johan ou Céline ?
Eh bien, on peut nous retrouver sur Facebook, hein, le Facebook des imposteurs. Les imposteurs, tout simplement. L'Instagram aussi.
Oui, pareil.
Et puis après, vous avez donc le site, hein, lesimposteurs.fr. Il y a l'actualité, justement, des différents spectacles, notamment la pièce de théâtre Raymond à Chanzy, les spectacles de la deuxième troupe adulte aussi, qui se passeront donc au mois de mai, et les spectacles des autres troupes des enfants.
Ben, grâce à tout ça, on peut continuer de suivre vos aventures et bien sûr aller voir le spectacle. Est-ce que du côté des Restos du Cœur, je vois Jean-Marc qui a pris ou Alain qui prennent le micro ?
Jean-Marc. Oui, non. Les restos, nous avons. Alors, il y a le site national, mais il y a aussi le site des Restos du Cœur du 49, du Maine-et-Loire. Et puis, nous devons être aussi sur Instagram, Facebook. Enfin, bref, les réseaux sociaux classiques, où là, on est plus dans une démarche initiatique, nous. Enfin, initiatique dans le sens où on démarre simplement à mettre ça en place.
Oui, parce que pour les Restos du Cœur, bien sûr, il y a des mouvements qui sont faits, des collectes ou comme des spectacles aussi collaboratifs. Mais ça peut bien sûr être tous les jours qu'on peut donner. On peut toujours aller les voir, les aider. Et il y a toujours besoin de bénévoles.
Absolument. On peut donner en ligne. Il y a un tout nouveau système qui est en ligne où les gens peuvent donner. Puis moi, je voudrais inviter toutes les associations qui nous écoutent à ne pas hésiter à prendre contact avec nous s'ils veulent organiser quelque chose à notre profit. Enfin, quand je dis à notre profit, au profit des Restos du Cœur, bien évidemment. Et qu'ils contactent le siège au Discours du Mont d'Urville et on étudiera toutes leurs propositions avec beaucoup d'attention.
Et je voudrais ajouter qu'on est en perpétuel besoin de nouveaux bénévoles qui viennent compléter les 1500 qu'on a. Parce qu'on est 1500 bénévoles et on représente, pour votre information, 210 ETP, un équivalent temps plein.
Mais merci beaucoup Jean-Marc et merci Alain d'avoir représenté les Restos du Cœur. Je vois Céline qui a quelque chose à nous dire.
Juste une précision, du coup, alors on voulait remercier Isabelle Asensio Becker qui a peu pu être là ce soir du coup pour échanger. Donc merci beaucoup à elle, merci beaucoup à l'ensemble de la troupe. Et du coup, c'est bien le samedi 11 avril 2026 à 20h, du coup, au Théâtre Chanzy.
Et on remercie aussi nos partenaires qui nous suivent pour le spectacle, on pense à RDI. Et puis, une grosse pensée aussi à tous les comédiens de la troupe et à l'association même des imposteurs qui nous écoutent.
Merci au Resto du Cœur.
Et puis, merci à Radio G.
Merci à Radio G.
Bah, merci à vous tous.
Merci. Et merci à Sidonie.
Merci Johan et Céline. Merde à vous aussi pour la prochaine représentation.
On prend.
Nous, on termine l'émission avec Café Chololo qui va nous faire voyager dans l'univers du café. Passez une excellente soirée sur Radio G au 101.5 FM. Et bien sûr, topette!
Chaque tasse de café regorge d'histoires merveilleuses. Découvrez un univers fascinant à travers le partage de l'immense savoir de producteurs rencontrés aux quatre coins du monde par Café Chololo. Plongeons d'abord au cœur de la légende fantastique de la découverte du café. Nous nous rendons en l'an 800 dans les hautes montagnes d'Abyssinie, en Éthiopie. Un berger du nom de Kaldi fait paître paisiblement son troupeau de chèvres. Les sentiers sont escarpés et le paysage féerique. Tantôt le soleil resplendit, tantôt il disparaît derrière une mer de nuages. Les arbres de toute taille se chevauchent et s'entremêlent. La forêt grouille, chaque centimètre carré regorge de vie. Soudain, Kaldi s'aperçoit que quelques-unes de ses chèvres ont mystérieusement disparu. Intrigué, il s'enfonce plus en avant dans la forêt, dans des terres encore inexplorées. La taille anormalement gigantesque des feuilles l'impressionne. Malgré l'épaisseur de la végétation, le chant mélodieux de la forêt l'encourage à avancer pour retrouver ses bêtes. Les heures passent. Subitement, il aperçoit une agitation insolite dans les branchages. Qu'est-ce donc qui remue ainsi dans le lointain ? Il s'approche et, sous ses yeux ébahis, ses chèvres se livrent à une danse frénétique. Elles caracolent, tournoient, jouent, sautent de branche en branche, emportées par une énergie incontrôlable. Kaldi, abasourdi, observe prudemment la scène. Il remarque qu'elle se délecte de baies rouges avec un enthousiasme contagieux. Jamais le berger n'avait assisté à un tel spectacle. C'était comme si la nature lui révélait un grand secret. Excité par cette découverte, Kaldi attrape sa machette et, d'un geste vif, sectionne une branche pleine de ses baies énigmatiques. Sans perdre une seconde, il reprend joyeusement le chemin du village avec son troupeau qu'il a du mal à canaliser. Après avoir examiné ses cerises rouges, le chef du village, intrigué, en prépare une décoction. Pour cela, il sépare de la main le fruit rouge des deux petites graines qu'il contient. Puis il les recouvre d'eau chaude. Ne la trouvant ni savoureuse, ni excitante, ni dotée de quelconque pouvoir magique, le chef du village jette au feu le reste de la boisson. Au moment où Kaldi s'en alla chez lui, épuisé de cette journée rocambolesque, une odeur inédite et enivrante embauma la pièce. Le berger fut rappelé pour partager le premier café de l'histoire. Ce petit fruit rouge, révélé par une nature généreuse, allait révolutionner les modes de vie, inspirer les esprits et parcourir le monde entier, comme nous le verrons dans le prochain épisode.
À bientôt pour de nouvelles aventures avec Café Chololo.
Don't want to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it.
Il est